critiquer. C'est comme la crème en deux biscuits secs.
Il y a beaucoup, beaucoup de fiction qui se fait autour des affaires policières, judiciaires dans les dernières années. C'est ce qui a la cote, hein?
Ah, depuis la nuit des temps.
Et souvent, quand on parle à des gens qui sont dans le milieu, ils disent « Ah, ça, c'est pas vrai, c'est pas fait comme ça. » Puis on s'intéresse aussi à comment ça se passe réellement sur le terrain. Mais c'est rare que, du moins, des policiers actifs nous donnent toute la vérité de comment ça se passe. On a toujours une petite gêne de parler publiquement de comment c'est dans la vraie vie, sur le plancher.
Absolument. Je suis en train de lire justement l'excellent bouquin Code 4-1 de l'ex-policier Philippe Paul. Et maudit que c'est intéressant, on l'a en bout de ligne. Monsieur Paul, bonjour.
Bonjour.
Ce livre-là, ça va droit au but. Moi, c'est ça que j'ai fait le saut. J'ai été surpris. J'ai été agréablement surpris. Le livre va vraiment droit au but. On rentre dans la chair des enquêtes immédiatement avec les sources, oui, et tout, comment ça fonctionne.
Exactement.
Pourquoi avoir écrit ce livre-là?
Ben écoutez, c'était premièrement pour partager une carrière premièrement intéressante, mais un peu particulière, qui était le contrôle des informateurs dès le début de ma carrière au District 31. Oui. Le vrai District 31. Je me suis intéressé au contrôle des informateurs. Les gens étaient attirés par ma façon de travailler et se confiaient à moi. Donc, dès le début, je me suis mis rapidement à saisir de la drogue, des armes à feu, parfois souvent des semaines, voire des mois d'enquête ou de filature ou d'écoute électronique, simplement en discutant avec un informateur. Et puis, petit à petit, en gravitant les échelons dans ma carrière, j'ai développé une technique pour en développer de plus en plus. Et finalement, au cours de ma carrière, j'en ai développé plus d'une centaine qui m'ont aidé dans une panoplie d'enquêtes différentes allant des stupéfiants, vol d'auto, tentatives de meurtre, tueurs à gages, trafiquants d'armes. Tout y a passé finalement.
Parce que Philippe, je me rends compte dans votre livre que parfois, faut, bon, je dirais pas tourner les coins ronds, mais faire fi de la procédurite aiguë, là. Des fois, on n'a comme pas le temps de demander la permission pour telle chose. Est-ce qu'on peut se faire des ennemis dans la boîte, des fois, quand on agit comme ça?
Ça, c'est clair. La police, c'est un monde macho. Je pourrais même dire que même au début de ma carrière, à un moment donné, en 89, le 6 décembre, plus particulièrement, quand il y a eu les événements de la Polytechnique, le directeur a demandé de cerner la bâtisse en croyant que c'était une prise d'otage. Moi, j'étais en civil, j'ai fait fi de ces ordres-là pour rentrer à l'intérieur pour tenter d'abattre l'épine à ce moment-là qui exécutait des femmes. Et puis, je l'ai trouvé inanimé, il venait de se suicider dans une classe. D'ailleurs, une des étudiantes est décédée dans mes bras là également. Et puis, d'ailleurs, depuis ce temps-là, la police a changé sa technique et puis les policiers se doivent d'entrer. Mais tout ça pour dire que même à cette époque-là, il y a des policiers qui m'ont dit « Je m'autant être un zéro vivant qu'un héros mort ». Et là, ça avait créé une certaine friction à l'époque. Et puis, la police, comme ailleurs, il y a toujours cette compétition de macho qui se fait. Et puis, j'en ai été victime un peu tout au cours de ma carrière, même si j'expliquais que c'était pas moi qui faisait ce travail, que c'était grâce aux informations qui me parvenaient de sources d'informations, d'informateurs. Mais rien n'y fait. Le monde macho étant un monde policier, mais ça te suit tout le long de ta carrière.
Quand on parle de sources, puis que je suis rendu à la moitié de votre livre, puis il y en a un qui s'appelle Richard qui est attachant, oui, très attachant. Est-ce que des fois...
Fatiguant, par exemple.
Oui, fatiguant, mais attachant. Mais pas aussi coloré. Celui qui s'appelle Mario aussi, je suis parti à rire 26 fois, je pense, en lisant le chapitre sur lui, là. Mais est-ce que des fois, c'est, pas qu'on oublie, mais c'est des vilains, là. C'est des bandits quand même avec qui vous négociez.
Effectivement, mais dans le cas justement de Richard, cet informateur-là qui a été détenu une partie de sa vie, donc ce monsieur-là, là, dès son jeune âge, était battu par son père, il a été maltraité, il a été placé dans un foyer d'accueil où c'est des frères qui s'en occupaient, il a été agressé sexuellement à répétition, il a eu une vie très, très, très difficile, et là, pour la première fois de sa vie, ben il a été arrêté par moi, évidemment, mais je l'ai traité de façon adéquate, je l'ai traité comme un humain, et puis... il a été quelques jours à l'extérieur des murs parce qu'il avait besoin d'un encadrement. Donc, il a été détenu pratiquement 20 ans. Il a développé un lien de confiance avec moi, m'a donné plusieurs informations de très grande qualité. Et même, m'a même demandé une faveur, c'est qu'après 20 ans de détention, il m'a demandé d'aller le chercher en prison, ce que j'ai fait. Et puis, j'étais ébahi de voir que, même quand il a arrêté, on a arrêté l'auto à un moment donné pour qu'il se cherchait un repas dans un fast-food avant que je le laisse. Il attendait à côté de la voiture, il attendait son escorte. « T'es libre maintenant, Richard, tu peux y aller tout seul. » Et puis là, il est allé chercher son repas, il est revenu en vociférant, en disant « Voyons donc, la dernière fois que j'ai pris ça, ça coûtait 3,85, là, ça coûtait quasiment 20$. » Mais j'ai dit « Ben, c'est ça. En 20 ans, il y a de l'inflation, mon ami. » Fait que c'est le genre d'événement inusité que je pouvais voir avec une panoplie d'informateurs différents qui étaient tous plus colorés un que les autres.
Votre livre, Philippe Paul, c'est très 1980, milieu 80, 90, 2000 un peu. Oui. Il n'y avait pas encore la technologie qu'on a aujourd'hui. Il y en avait, mais pas comme aujourd'hui.
Ben à la fin, oui, j'ai terminé 2014-2015. Ouais. Mais par contre, la technologie, ben, ce qui m'a aidé en fait, c'est que les réseaux sociaux n'étant pas aussi rapides et ponctuels qu'ils le sont aujourd'hui, ben ça m'aidait parce que quand j'infiltrais un policier ou quoi que ce soit pour aller acheter que ce soit de la drogue ou des armes et que les bandits se devaient de vérifier les sources d'information d'où provenaient les références, ben ils ne pouvaient pas le faire aussi rapidement qu'ils le peuvent aujourd'hui. Aujourd'hui, en un clic là, sur ton téléphone cellulaire, tu peux presque vérifier la vie de tous et chacun et ça rend les opérations encore plus délicates et chirurgicales.
Comment vous réagissez comme ex-policier? Puis souvent, on a vu ça, là c'est un peu plus tranquille, mais quand il y a des manifestations, souvent pour des causes raciales, des choses comme ça, on voit des anarchistes, on voit des gens qui écœurent les policiers carrément, puis qui filment, puis cellulaires. Moi, personnellement, j'arrête pas de patience, mais vous, dans une position comme ça?
Ben bon, je veux dire, moi, ce que je trouve bizarre, c'est que ça change tellement. Regardez, la police, autrefois, il imposait des lois à Montréal pour que les gens ne portent pas de masque parce qu'on voulait lors de manifestations qu'ils soient identifiés. Aujourd'hui, c'est le contraire. On veut qu'ils portent le masque, mais les gens veulent pas. c'est rendu le contraire. Mais même lors de mes dernières opérations policières sur la rue, que j'interceptais des criminels avec le SWAT ou non, on portait évidemment un masque pour se couvrir le visage pour notre protection. Pourquoi? Parce que les cellulaires étant tous munis de caméras, eh bien, ben, ces gens-là pouvaient nous poser facilement, mettre ça sur les réseaux sociaux, ainsi de suite, pour notre protection, mais c'est moins bon un peu.
On parlait tantôt, vous avez dit, j'ai commencé au district 31, le vrai district 31. On pose toujours la question quand on parle à des gens, des acteurs du monde judiciaire, des policiers. Premièrement, est-ce que vous l'avez écouté un peu, puis comment vous trouvez ça? Est-ce que c'est fidèle à la réalité?
Oui, sauf les services secrets, évidemment, une bande de tueurs, ça, en réalité, ça n'existe pas. Mais pour ce qui est du reste, oui. Sauf qu'on disons que c'est tout le service de police de Montréal qui est regroupé en un groupe, là, ce qui se passe, là, tu sais. On est quand même 4500, là, au sein du SPVM. Mais là, on voit tout ce qui se passe au sein du SPVM au sein d'un petit groupe de 7 ou 8 enquêteurs. C'est sûr qu'il faut rendre ça alléchant. On fait ça de cette façon-là. Là. Mais je peux même te dire qu'il y a certaines des choses qui sont survenues là-dedans ou certaines petites phrases qui ont été prononcées qui ressemblent étrangement à des choses qui proviennent de mon premier livre « Coupable d'être policier ».
Ils sont inspirés un peu de vous.
Ben, peut-être pas de moi, mais peut-être de certaines histoires provenant des récits de mes derniers livres.
Mais avez-vous déjà parlé avec Luc Dionne?
Non, mais je connais très bien un de ses amis, là, Denis Arcand, le cinéaste. Mais non, M. Dionne, non, pas encore.
Okay. Mais dites-moi, ceux qui sont dans l'émission, dans le crime organisé, qui gravitent autour de ça, il y en a qui ont eu maille à partir avec certains membres du crime organisé, puis on tend à voir qu'ils veulent vraiment faire une séparation entre la job de police puis la job qu'ils font, puis on veut pas d'attaque personnelle parce que la police a une coche de plus que tout le monde, tu t'attaques pas à une police. Est-ce que vous avez déjà craint pour votre vie dans ça?
Ben, j'ai été menacé de mort à plusieurs reprises au cours de ma carrière. Disons, quand tu saisis des conteneurs d'armes à feu et de stupéfiants, ben, à un moment donné, tu n'as pas des amis. Hein? Ça coûte cher aux criminels. Et puis, à un moment donné, la personne qui doit payer le prix, c'est l'instigateur. Si on n'est pas capable de découvrir l'identité de l'informateur, on va aller à celui qui le contrôle, en l'occurrence moi-même. Fait que oui, même encore aujourd'hui, je m'assois toujours dans un restaurant de façon à voir ce qui rentre. Je prends jamais le même chemin pour aller à la maison. Je suis quand même prudent. Ça va me coller, je pense, le restant de mes jours, mais ça fait partie de la personne que j'étais au travail.
Ben justement, de vous afficher publiquement comme ça depuis quelques années, est-ce que ça a été un pensée bien au début ou vous avez dit, gars, moi, je n'ai rien à perdre?
J'ai pas eu le choix. Mon premier livre s'appelle Coupable d'être policier. Pourquoi? C'est qu'au cours de ma carrière, quand tu gravites les échelons du crime organisé, ça te fait arrêter des bandits de plus en plus gros. Bon, donc des gens du gouvernement, des gens haut placés dans les compagnies et malheureusement, parfois des policiers. Et j'ai dû faire enquêter des policiers à quelques reprises. Et en faisant ça, ben, tu ne fais pas des amis parce que certains de ces policiers-là ont des amis toujours en fonction dans les services de l'ordre. Et puis, à ce moment-là, ben, on dit, ben, t'es pas aux affaires internes, t'as pas d'affaires à faire arrêter cette personne-là. Mais moi, ce que je me dis, ben, écoute, il y a une chemise bleue. C'est supposé d'être un homme de loi. Si c'est un criminel, ben, il paiera le prix comme les autres. Mais on voit pas toujours ça de la même façon, tout dépendant de la relation qu'on a avec cette personne-là. Et puis, à un moment donné, ben, on a sorti une émission de télévision sur moi en disant que je faisais possiblement affaire avec des espions et puis des choses comme ça, ce qui était complètement farfelu, mais c'était juste assez pour me mettre des bâtons dans les roues. On sait aujourd'hui que ça vient de policiers que j'ai fait enquêter, ces informations-là. Mais j'ai décidé de prendre ma retraite, écrire le livre qui s'appelle « Coupable d'être policier » pour retrouver mon droit de parole, ce que j'ai fait depuis ce temps-là.
Ben justement, d'une fois qu'on vous a identifié dans les reportages en question comme étant policier vedette du SPVM, votre nom sortait, votre visage sortait, vous étiez un peu brûlé, là.
Oui, j'étais brûlé autant devant les tribunaux que sur la route. Plusieurs criminels connaissent mon nom, évidemment, mais sans connaître mon visage. Mais là, on avait mis mon visage partout dans les médias. On avait même mis une photo de moi. Je suis allé, tout le monde en parle à un moment donné. On a affiché cette photo-là où je suis posé en Amérique du Sud avec un homme. On brouille son visage et moi, je suis posé à côté. Et on dit Philippe Paul posé avec un homme d'affaires nébuleux en Amérique centrale. En fait, c'était aux noces de mon neveu en Jamaïque. J'étais son garçon d'honneur. Fait que tu vois des fois comment qu'on peut tordre la réalité là, pour faire paraître, transpirer ce qu'on veut dans les médias, mais il faut apprendre à vivre avec ça.
C'est quasiment inquiétant. C'est inquiétant ce que vous dites là. Quand je lis le livre, je sens beaucoup d'adrénaline avant les opérations. Puis tu sais, moi-même, en tant que lecteur, je viens quasiment stressé. J'ai hâte de voir la suite de l'enquête, de la perquisition. Est-ce que cette adrénaline-là, ça vous manque encore aujourd'hui?
Ah, bien sûr. Encore, moi, je serais jamais capable d'arrêter. Je suis un hyperactif. Encore aujourd'hui, tu sais, je suis pilote d'hydravion, je suis très actif, tout ça. Dans la tête, ça tourne tout le temps. Je pense que c'est quelque chose qui nous garde en vie, ça, ces choses-là. Oui, j'ai mis un terme trop rapidement à ma carrière. Il n'y a pas un soir que je rêve pas, que je défonce des portes, que j'arrête des gens. Mais ça fait partie de la personne que j'étais et ça va me suivre, je pense, que jusque dans ma tombe, ça.
Là, c'est comme dans le district, là, vous allez prendre un café, les retraités, puis vous faites de la filature puis de l'écoute électronique?
Non, pas du tout. Mais je peux te dire qu'il y a beaucoup de retraités qui ont été recrutés pour faire de la filature pour des firmes privées, ainsi de suite. Je l'ai été également. On m'a même demandé, des firmes d'avocats m'ont demandé de partir de ma propre agence privée pour des enquêtes. Been there, done that. On passe vraiment à d'autres choses. On essaie de tourner la page. C'est pas facile, mais à un moment donné, il faut passer à autre chose.
C'est disponible dès maintenant, code 411 aux éditions Druid. Tout comme Coupable d'être policier, que je me promets de lire immédiatement la semaine prochaine. Philippe Paul, merci beaucoup de nous avoir parlé.
Merci beaucoup. Bonne journée et bonne lecture.
Merci,
à tous.
Vous aussi.
Au
merci.
Revoir.
Fascinant.
Ah ouais.
Ça m'a donné vraiment le goût de le lire.
Ah non, faut que tu n'as pas le choix.
Ouais, hein?
T'as pas le choix.
C'est sur ma liste.
Tu sais, je sais que faut pas faire de comparaison, mais c'est du district en papier. Là. Carrément, là. Carrément, c'est excellent. Je te le dis, Simon, puis tu m'as vu. T'sais, normalement, là, un livre qui est plate ne me serait pas rendu à 150 pages en moins de 24 heures. Là.
Merci beaucoup.
Vraiment pas, mais c'est vraiment intéressant. Mauditement intéressant.
Jusqu'à 14 heures, vous écoutez Midi Pile. Ensuite, c'est le retour de Courchaine à Kick 95.7 Saguenay.